Déjà, première question, messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et auditrices d'LFM Radio, s'il vous plaît?
Je commence, rien.
Vas-y.
Donc, je suis le capitaine Christian Potvin, je suis commandant de la compagnie de Mag en Ville. Mon travail se divise en deux grandes parties, celle d'une gestion et un commandement d'une unité opérationnelle qui est celle du centre de secours principal de Mag en Ville, avec 120 personnels environ, et également cette notion de coordination et de commandement sur la compagnie, c'est-à-dire des unités qui sont rattachées au secteur de Mag en Ville, à cette compagnie de Mag en Ville, ce qui m'amène de Bonnières-sur-Seine jusqu'à Oudan, en passant par Limay, Bréval et Septeuil.
Je vous remercie.
Donc moi je suis le lieutenant Damien Labrault, je suis le chef de centre de Bréval, et donc c'est un petit peu plus réduit au niveau de ma gestion. Je gère 53 SPV sur le centre de secours et un adjoint qui est professionnel.
SPV,
sapeur-pompier volontaire.
D'accord, okay. Du coup, je viens vous voir par rapport à ce sujet-là, à l'engagement citoyen. On ne parle pas de recrutement là, on parle de l'engagement citoyen. C'est très important. Première question assez, on va dire générale, mais que certaines personnes se demandent. Sapeur-pompier volontaire, la différence entre les deux, est-ce que c'est seulement le volontariat ou il y a autre chose qui rentre en jeu dedans?
Alors, d'un point de vue extérieur, l'uniforme ne permet pas de définir si la personne a les sapeurs-pompiers volontaire ou professionnel. Donc la finalité sur le territoire national, départemental, lorsqu'on est en opération de secours, on ne peut pas la voir, elle n'est pas visible et même dans les gestes, dans les actions de secours, elle n'est pas remarquable. Ce qui les différencie, c'est un aspect contractuel, un aspect statutaire, où il y en a un qui fait ça sur son temps libre, en plus de son activité professionnelle ou son activité d'étudiant, en tout cas libre. Où il va servir son pays, son département pour porter secours, et l'autre c'est sa profession, c'est-à-dire que c'est son métier, avec une carrière et tout un process de carrière qui va avec.
D'accord. Je me tourne vers vous, du coup, en off, on l'a appris, du coup, vous avez commencé en tant que sapeur-pompier volontaire. Pourquoi avoir décidé de vous lancer là-dedans?
Personnellement, moi, c'est un changement de carrière, envie d'explorer de nouvelles choses, et puis c'est vrai que étant baigné dans le volontariat, donc je connaissais déjà l'envers du décor des pompiers, j'y ai pris goût et j'ai voulu voilà, explorer de nouveaux horizons et me lancer un nouveau défi.
Alors, comment ça se passe quand on veut être sapeur-pompier volontaire? Je m'imagine à la place des personnes voulant, vers qui je me dirige, quelles sont les formations, combien de temps ça se passe? On vous
Alors,
écoute.
en amont et un peu en préambule pour mettre un côté un peu teaser, l'engagement citoyen ou de sapeur-pompier volontaire permet vraiment de pouvoir intégrer, de faire partie d'une corporation, d'une communauté, de pouvoir donner du sens à ce que l'on fait au quotidien, et ça on voit bien, avec plusieurs dimensions. L'avantage d'aborder cela sur une compagnie notamment et un centre de secours, c'est qu'on a un panel de possibilités, c'est-à-dire que cet engagement au sein d'un centre de secours principal tel que Magnanville, qui est une structure professionnalisée, professionnalisante, avec 120 personnels, une activité opérationnelle importante, 8 500 opérations de secours à peu près par an, et à défaut, on va avoir un rythme qui va être soutenu, une activité donc, avec des engagements sur opérations importants. Et à défaut, on peut se diriger vers un centre de secours tel que Bréval. Donc, cette possibilité, on peut le faire, et on va le voir quand on va vous expliciter cet engagement. Où là, on est 4 de garde par jour. On a une activité à peu près de 600
entre 600 et 700 départs annuels.
annuels, avec un aspect plus familial, un accompagnement. On prend peut-être un peu plus de temps. Voilà. En gros, pour faire très simple, il y en a pour tout le monde. Il suffit de se diriger, d'être bien dirigé, et ça c'est tout notre travail nous d'encadrement pour pouvoir accompagner ces futurs engagés citoyens pour que ça corresponde à la structure et également de pouvoir adapter par rapport aux besoins de la personne qui vient se présenter et lui apporter une réponse pour pouvoir essayer de flécher au mieux le centre de secours qui pourrait lui correspondre. Mais en tout cas, au sein du centre de secours principal de Mayerville, de la compagnie Mayerville, on fait partie des unités où on centralise ces demandes d'engagement. Donc ça part par une demande, un courrier, une lettre de motivation, un entretien qui peut se faire. Et après, je vais laisser à la place à Damien pour tout process d'engagement qui est commun au département des Yvelines. Et bien sûr, donc, de fait, à la compagnie et au centre de secours de chaque unité de la compagnie.
Alors, juste avant de vous donner la parole, je voulais juste commencer par rapport au choix des casernes pour les personnes, par rapport à leurs besoins. Comment il est fait ce choix ? C'est par rapport à une géolocalisation de leur domicile ? Comment ça se passe ?
Effectivement, dans le côté de l'appartenance, le côté local et géographique est assez prégnant. Ça permet une fois plus, on parlait tout à l'heure de sens de l'action, du sens du devoir. Effectivement, de pouvoir défendre l'endroit où j'habite, ça fait un petit peu un rêve d'enfant, mais c'est pas inintéressant. Je suis pompier local, je suis pompier qui est connu par mon voisin, qui est reconnu par l'autorité municipale. Tout ça, ça a du sens. Et derrière, ça permet vraiment de valoriser, notamment de pouvoir maintenir aussi une certaine adhésion locale.
Une proximité.
Une proximité qui est vraiment importante. Par la connaissance du secteur, par la connaissance des locaux, de l'activité économique, de l'activité sécurité, secours local. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et effectivement, on peut le constater notamment par le nombre d'années où la personne va rester dans l'unité, alors que si elle est dans une unité où l'appartenance est un peu moindre, où il n'y a pas ce sentiment, je me répète, d'appartenance, des fois ça peut distendre un peu le lien, parce que c'est une histoire de lien souvent entre les deux.
D'accord, je vous remercie. Du coup,
sur le process de recrutement, donc à l'issue de l'entretien d'engagement, à l'issue de l'entretien, du coup, le futur volontaire passe une visite médicale. S'il y a aptitude, à l'issue, du coup, il va suivre un process de formation. Et à l'issue de chaque formation, donc des modules, à l'issue de chaque module, il pourra armer l'engin sur lequel il a été formé. Il va commencer par le secours d'urgence aux personnes. Il pourra, du coup, à l'issue de cette formation, monter dans les VSAV.
D'accord.
Ensuite, il fera module incendie. Module incendie pourra armer les engins d'incendie, et ainsi de suite.
Alors, c'est une histoire d'échelon, c'est ça ? De plus en plus ?
C'est tout un process d'engagement, c'est-à-dire que derrière, la formation prend du temps.
Combien de temps, à peu près ?
Environ 150 heures sur l'ensemble de la formation.
C'est-à-dire que rapidement, le besoin, et là on va revenir à notre activité personnelle, parce qu'on est là pour répondre à un besoin, à 80-85% de notre activité est liée au secours à personne, c'est-à-dire que c'est l'engagement au secours d'urgence aux personnes, c'est l'engagement des ambulances, des véhicules de secours et d'assistance aux victimes, les VSAV, et donc de là, le besoin il est là. C'est celui-là le premier. Donc derrière, rapidement, de pouvoir former et avoir cet engagement différencié notamment où on peut les rendre rapidement opérationnels et au moins ça permet de donner de la lisibilité à ces engagements. C'est-à-dire que souvent, comme vous, on veut un peu tout de suite. C'est-à-dire que je viens lever la main pour dire voilà, ça m'intéresse de m'engager. Bah, si il faut 2 ans avant de monter dans l'ambulance, on risque d'avoir un peu de perte en ligne.
Et puis ça permet déjà nouveaux volontaires, d'avoir un pied dans le centre de secours et de s'intégrer au sein de la corporation et de, comme dit le capitaine, d'avoir vraiment déjà un sens à son engagement.
Effectivement. Et tout est là, c'est-à-dire que, et ça c'est un cheval de bataille hein, que l'on a notamment depuis mon arrivée, c'est donner de la lisibilité, c'est-à-dire que quand la personne vient se présenter, qu'on lui donne une ligne du temps en disant voilà, vous avez posé votre candidature. On va étudier vos candidatures à T plus 15 jours, un mois. Ensuite, on va faire, donc, on va se réunir de façon à avoir, pour donner cette aptitude à l'engagement, oui, non, parce qu'il y a aussi une notion d'aptitude médicale. Et là, c'est les médecins qui parce qu'on a vraiment un staff très complet et structuré au sein du service départemental, qui donne le feu vert ou le feu rouge sur la suite. Et ensuite, ça lance dans le process. Mais l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir donner cette visibilité à 3 mois, 6 mois, 1 an, pour savoir où on en est, où on va, et quelles sont les perspectives à venir.
Par rapport au, au CV, mais par rapport aux demandes, qu'est-ce qui est rédhibitoire de votre côté ? Si vous le voyez, vous dites, ça ne sera pas possible chez nous. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est rédhibitoire ? Alors, peut-être sur les aptitudes physiques ?
Alors, l'aptitude physique, l'aptitude médicale. Mais bon, l'aptitude médicale, ce n'est pas nous qui la décidons, hein. C'est le service de santé. Et après, ça va être...
Il n'y a pas quelque chose vraiment de fixe ou des critères ou
Une fois de plus, c'est l'histoire de minimum qui doit correspondre à nos standards habituels, parce que faut que ça réponde une fois de plus à un besoin, donc à l'activité opérationnelle. Il ne faut pas mettre à défaut, en tout cas, qu'on perde cette norme de sécurité lorsqu'on envoie un sapeur-pompier en opération. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette contrainte, qu'elle soit physique et médicale, pour pouvoir répondre à ça. C'est-à-dire que oui, dans un premier temps, on a le secours à personne. On pourrait effectivement relativiser en disant, bon, bah, c'est de l'ambulance, l'engagement physique est peut-être un peu réduit. Sauf que quand vous commencez à enchaîner 10, 15 opérations de secours en 24 heures, avec peu de sommeil, vous montez 6, 8 étages, vous pouvez brancarder une victime de 100 kg à 3 dans les escaliers, rapidement, c'est ça qui va nous rappeler que c'est pour ça qu'on met des contraintes et qu'on met cette aptitude. Voilà. Donc tout n'est pas impossible. Tout travail peut nous amener à avoir une condition physique. À partir du moment qu'on nous donne cette lisibilité, qu'on nous donne les axes de travail pour pouvoir se préparer, se former, c'est tout l'objet de ces premières rencontres et lorsqu'on fait le constat et les premiers échanges qu'on a avec nos futurs sapeurs-pompiers volontaires qui se présentent à nous.
Test physique, il y a test écrit aussi pour devenir sapeur-pompier volontaire.
Oui, il y a test écrit, test de français et de mathématiques. Après, c'est succinct, hein, c'est des tests qui prennent pas très longtemps. Et après, un test physique aussi, avec deux tests, test pour les engagements différenciés, et des tests aussi pour ceux qui seront toute mission, qui agiront jusqu'à l'incendie.
Pour les tests, ça se fait où exactement? Alors là, on a un manuel d'évacuation.
En centre de secours. Centre de secours sur lequel sera affecté le futur engagé.
D'accord, ok.
Cette organisation... pour donner de la visibilité, pour pouvoir organiser, parce qu'à chaque fois c'est lourd un point de structure d'organiser des engagements et des tests pour l'engagement. Donc tout est lié à ça, c'est-à-dire que oui, si Bréval est en capacité, parce qu'ils ont 6, 10 personnes qui présentent des tests, ils vont être autonomes pour organiser. Si derrière Maillonville est plus près, ou Septeuil, on a aussi, on peut regrouper, on s'adapte. L'idée c'est de donner une fois plus de la lisibilité, que ce qu'on ne soit pas en attente pendant 6 mois, 1 an, d'une commission qui va permettre d'assurer cette aptitude et cet engagement de volontaire. Donc on s'organise pour répondre au mieux, très schématiquement, pour que tous les deux mois, sur la compagnie, on ait une commission qui permet de statuer en disant on y va, feu vert ou feu rouge.
Okay.
Voilà.
Par rapport à l'âge, alors là, ce sera pour nos jeunes auditeurs. On peut être sapeur-pompier volontaire à partir de quel âge?
À partir de 18 ans.
18 ans. D'accord. Les femmes aussi?
Alors les femmes aussi. Alors un petit laïus quand même rapidement sur le avant 18 ans, c'est qu'avant d'avoir cet engagement supplémentaire, on a quand même une structure au sein de nos unités, les jeunes sapeurs-pompiers, 14-18 ans, vous voyez cette continuité, 14-18 ans, et après on bascule sur sapeurs-pompiers volontaires, et après on peut même encore continuer cette activité.
Sur la compagnie, il y a trois sections de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. On va avoir Magnanville, Bonnières et Bréval. Donc on a trois sections sur la compagnie.
Donc du coup, je disais, les femmes aussi sont accueillies et vous en avez besoin également, j'imagine. C'est pas que les hommes.
Alors effectivement, cet engagement concerne tout le monde. Hommes, femmes. Pour vous donner un titre d'exemple sur Magnanville, on a 11 femmes à l'effectif du centre secours principal de Magnanville.
D'accord. Par rapport à Bréval, je voudrais qu'on revienne dessus. Vous avez dit 50 pompiers, sapeurs-pompiers.
On est 53 en tout,
ouais,
sur le centre de secours. Et nous, on a deux féminines. Deux féminines sur le centre de secours, oui.
Donc, pour dire aux auditeurs, je vais en voir parce qu'il y a eu un article qui était sorti que le centre de Bréval est à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi, tout simplement? Il y a une hausse des interventions. Voilà, merci. Et ce sont des interventions qui vous le demandent?
Alors non, c'est pas forcément une hausse des interventions, c'est plus l'effectif en fait qui a réduit des personnes qui ont arrêté leur engagement suite à des mutations ou départ en retraite. Et du coup, l'effectif ne s'est pas renouvelé. Et là, on se retrouve un petit peu en pénurie et on a du mal à atteindre le POJ journalier.
Le POJ, c'est
le potentiel opérationnel journalier. Donc, c'est le nombre d'agents qu'on doit avoir chaque jour sur le centre de secours.
C'est à peu près combien là?
Nous, c'est 4. On doit être à 4 le jour, 4 la nuit.
D'accord, ok. Donc là, actuellement, on est proche, on est assez éloigné.
Certaines journées, on n'est que 3. D'autres journées, on arrive à monter à 4, mais on n'est pas tous les jours à 4-4. Après, il y a aussi la possibilité, on a d'autres centres de secours qui viennent mutualiser, donc qui viennent prendre la garde sur Bréval afin de renforcer les effectifs du centre de secours. Mais on se retrouve certaines journées, comme je vous disais, à 3 au lieu d'être 4.
Sur, effectivement, pour compléter ce que dit le lieutenant, notre réponse opérationnelle repose sur un maillage territorial, donc différentes unités, ce qui fait que quand une caserne est soit en mesure de fournir, en tout cas même en opération, c'est l'autre caserne qui vient couvrir son secteur. Voilà. Et c'est une histoire de tiroir, ça glisse, de façon qu'on ait bien ce maillage. En tout état de cause, Bréval, la réponse sanitaire, c'est-à-dire l'envoi d'une ambulance, c'est ce qui nous maintient. Et ensuite, d'avoir un prompt secours, je vous rappelle, une première réponse avec un véhicule qui peut correspondre, je prends un véhicule incendie, mais au moins d'avoir une première réponse en attendant que les moyens des autres unités se déplacent pour assurer la réponse optimale. Je parle d'incendie avec un fourgon incendie, une échelle aérienne, etc., etc. Et pour redonner un effectif, donc c'est là où on voit le comparatif, 4 sur Bréval, 19 sur Magnanville. Oui. Voilà, en effectif. Parce que la réponse demandée n'est pas la même.
Bien sûr.
Voilà.
Après, pour information, nous, sur le secteur défendu par Bréval, on a 11 800 habitants. Donc c'est dérisoire. C'est peut-être pour cela aussi qu'on a du mal à trouver de la ressource. Parce que 11 800, sachant que dans les 11 800, il y en a 4 400 qui viennent des départements du 27 et du 28. Donc si on prend juste les Yvelines, on est à 7 400 habitants. Donc effectivement, pour trouver de la ressource sur si peu de population, c'est pas évident. Okay.
Et en effet, cette particularité de Bréval, hein, c'est de couvrir...
On couvre trois départements et trois régions. Donc les Yvelines, l'Eure-et-Loire et l'Eure.
D'accord. Ouais, donc c'est vrai qu'à 4, soit la nuit ou la journée, ça peut être vite... Dites la course.
Après, c'est vraiment des communes qui sont limitrophes. Hein. C'est des communes qui sont à 300 mètres des Yvelines. Hein. C'est vraiment, on sort tout de suite de Bréval et on est dans le 27 ou dans le 28.
D'une manière un peu plus générale et globale, sur l'évolution du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires au fil des années, vous voyez ça comment? Ça a augmenté, ça a diminué. Alors, évidemment, la crise sanitaire entre-temps n'a pas dû arranger les choses, j'imagine. Comment vous voyez l'évolution de... ce volontariat de citoyenneté.
Je te laisse commencer. Puis je vais...
Alors, moi, de mon point de vue, je trouve que l'engagement dure moins longtemps. Les volontaires, alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais...
Effectivement, peut-être pour étayer un peu, on est à une moyenne sur le département qui était plutôt de 7 ans en engagement, en fonction, là, si on revient sur notre local, en grossissant un peu les chiffres, on voit que cette moyenne commence à descendre et on réduit peut-être, et on rejoint, commence à venir vers 5 ans. Donc ce qui fait que, vous parliez tout à l'heure, pourquoi on a cette démarche-là d'ouvrir et un peu de campagne d'engagement, c'est parce que ces 2 ans, si on réduit, forcément, ça laisse libre à une réduction, en tout cas, pour armer ces gardes et ces astreintes. Et c'est vrai que, je reviens là-dessus, c'est cette possibilité aussi. Dans le département des Yvelines, nous ne sommes qu'en garde postée. Voilà, donc il n'y a pas d'astreinte à domicile. Cette contrainte, c'est-à-dire que, parce que ça aussi, ça peut être un frein parfois, ou une idée reçue. Je suis à la maison, j'ai un bip, je suis à mon travail, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, je dois tout laisser et partir en intervention. Non, là, nous, notre système, c'est que vous êtes 12 heures, ou 24 heures à l'unité, vous faites que ça. Voilà. Donc oui, ça permet de bloquer dans l'agenda, mais au moins vous n'avez pas cette complexité de je fais autre chose en même temps. Voilà. Vous êtes détaché à ça, vous faites que ça, et ça nous enlève aussi d'autres risques, hein, qui celle comme on l'a en province, hein, où la personne est chez soi, le bipson prend sa voiture, roule à toute vitesse pour rejoindre son unité et partir en intervention. Voilà. Donc non, nous, les personnes sont en garde postée dans les unités.
Donc ouais, là, donc c'est, vous voyez une diminution du coup.
En termes de durée d'engagement, oui, pour moi, il y a une diminution du volume d'années par rapport à autrefois. Après, sur le secteur Bréval, comme je vous ai dit, hein, moi, c'est, il y a le fait du bassin de population qui est quand même réduit. Donc, c'est sûr qu'on a du mal à trouver ces engagements. Après, je pense que le côté aussi confinement, les gens ont pris l'habitude suite au Covid. Confinement, je pense que les gens ont pris l'habitude de rester chez eux et d'être peut-être un peu plus égoïste et de pas s'orienter vers de l'aide à la population et pourquoi pas s'engager en tant que volontaire. Je pense qu'il y a ce facteur-là aussi qui nous donne du mal à trouver de nouveaux engagements.
Effectivement, de manière peut-être un peu philosophique, les gens se sont un peu recentrés sur l'essentiel.
Ouais, penser à eux.
Voilà.
D'accord. On va arriver à la fin de cette interview, messieurs. Si des personnes voudraient vous contacter pour avoir plus d'informations qui sont dans le secteur, ici de Magnanville ou même de Bréval, comment ça se passe? Ils viennent directement sur place, un numéro de téléphone?
Et on va tout vous donner, numéro de téléphone.
Allez-y, vous en faites pas, je couperai ça à montage tant qu'on trouve toutes les informations.
Tout numéro de téléphone et une adresse mail.
Alors, il y a une adresse mail, c'est l'adresse générique en fait de l'engagement du 1078, je suis en train de vous la chercher.
Voilà.
Alors, sinon, je vais finir avec vous le temps qu'on trouve.
Et le site internet, parce qu'on connaît le site internet, parce que
ouais.
Le site internet permet vraiment d'expliquer, en tout cas, donner une belle visibilité à notre département, à notre service départemental.
Puis, bien sûr, je mettrai, j'ai une zone de paragraphe en dessous du podcast, là, je mettrai toutes les informations. Juste sur les valeurs que ça inculque pour nos auditeurs qui se décident encore ou pas à vouloir être sapeur-pompier volontaire, quelles valeurs ça va inculquer à ces personnes-là?
Alors le sens, souvent le sens, moi je reviens là-dessus, sur le sens de l'action, le sens du devoir. J'apprends aussi très basiquement ce qui caractérise les pompiers, ce qu'on retrouve sur nos insignes, cette notion de courage, cette notion de dévouement pour la population, pour la nation, auprès des citoyens, et être tout simplement une valeur ajoutée au quotidien pour la population. C'est aussi un plus. Lorsqu'on le remet pour quelqu'un qui est étudiant, pour son milieu scolaire, d'avoir un sapeur-pompier volontaire qui est étudiant ou qui est lycéen, c'est toujours intéressant. Pour une entreprise, d'avoir un pompier volontaire, c'est toujours aussi intéressant parce qu'il y a des secouristes au travail, parce qu'il peut, il sera toujours pareil, le premier maillon, même dans l'unité. C'est-à-dire que cette transposition, oui, on va assurer ce cursus de formation, cet accompagnement, donner un cadre aussi, donner des valeurs, une corporation, du sens à plein de choses. Voilà. C'est une école de la vie aussi, hein, très basiquement. Mais également, tout ça peut être réinvesti au quotidien dans l'activité professionnelle. À la limite, Damien aura peut-être des exemples là-dessus dans son activité professionnelle précédente, où au quotidien, il était marqué, parce que c'est un marqueur fort aujourd'hui d'être sapeur-pompier volontaire. D'ailleurs, je fais un lien avec cette notion de marque employeur qui est développée chez les sapeurs-pompiers également, de pouvoir référencer, récompenser les entreprises qui mettent à disposition, ou en tout cas qui incitent le sapeur-pompier volontaire à s'engager. Voilà, il y a tout ça, tout cet écosystème qui rentre où on est quand même dans une notion de bienveillance permanente, et derrière où chacun va s'y retrouver. Et que c'est pas forcément du temps perdu, ou c'est bien à chaque fois cette notion de réinvestissement, où j'ai quelqu'un qui s'engage, à un moment dans mon entreprise, en tant que chef d'entreprise, je peux l'avoir, et c'est pour ça qu'aussi il est intéressant pour nous d'être en contact avec des chefs d'entreprise qui pourraient s'interroger là-dessus, ou en tout cas pouvoir proposer à leurs salariés cet engagement de sapeur-pompier volontaire.
Et avant que la mèche, est-ce que vous avez des exemples du coup à nous donner ou pas?
Non, mais juste pour revenir, il y a le côté donc se rendre utile auprès de la population, et puis après, pourquoi pas susciter des vocations professionnelles aussi, parce que, enfin, je suis un exemple issu du volontariat, mais il y en a énormément sur le 1078, sur le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Il y a énormément d'agents qui commencent par le volontariat et qui après passent le concours pour devenir soit endurant, soit devenir officier. J'en connais énormément qui sont passés, qui ont commencé en tant que sapeurs-pompiers volontaires, à 18 ans, 20 ans, peu importe, et qui derrière se sont orientés vers une carrière professionnelle. Je pense que ça peut créer aussi des vocations, des gens qui ne savent pas encore, qui découvrent le volontariat et qui derrière bah, s'orientent vers leur métier, leur avenir.
Et effectivement, un volet peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de monter en compétence et de monter en grade. C'est-à-dire que cette notion de responsabilité est aussi intéressante à développer, c'est-à-dire que la personne doit rentrer effectivement sa peur, donc avec cet engagement à l'ambulance, au secours d'urgence à personne, en tant qu'équipier incendie, équipier opérations diverses. Mais ensuite, il y a tout un cursus aussi pour pouvoir accompagner et faire monter en compétence les gens pour, à terme, être chef d'agré d'une ambulance, c'est-à-dire avoir à sa charge, et c'est pas anodin, ce n'est pas rien, donc d'atteindre le grade de sous-officier pour être chef d'agré en ambulance, avoir donc être à la tête d'une opération de secours, donc c'est le premier commandant des opérations de secours, hein, le chef d'agré, c'est le premier maillon qui va arriver, qui va assurer ce commandement, cette coordination, prendre en charge une victime, quand même, cette notion de, c'est, une fois plus, c'est pas rien, c'est pas anodin, avoir un équipage sous son commandement, et on va même avoir un équipage qui peut être des sapeurs-pompiers professionnels, voilà, parce que, comme on dit souvent, le grade et la fonction prime, prime sur le grade, et de là, et même sur le statut. Voilà, parce que c'est très bon ça pour assurer cette compétence de chef d'agré. Et ça peut monter jusqu'à être même chef d'agré tout engin. On a des chefs d'agré des fourgons incendies et chaînes aériennes qui sont assurés par des savants pivotaires, qui sont adjudants, adjudants-chefs, et même jusqu'à des officiers qui sont chefs de groupe et qui peuvent coordonner une opération. Donc voilà, il y a tout un cursus, un accompagnement, qui une filière qui permet... et c'est pour ça que même dans notre organisation départementale, on a un officier de savants-pivotaires volontaire qui est en direct avec notre chef de corps, notre directeur départemental, pour faire remonter, pour valoriser cette filière d'engagement citoyen.
D'accord. Alors, les informations complémentaires.
Les informations complémentaires, donc l'adresse mail pour adresser toute candidature, ça sera engagement.volontariat@sdis78.fr. Et le site internet, c'est le sdis78.fr.
Voilà, c'est assez simple.
Sdis78 pour service départemental d'incendie.
Voilà, c'est important de le rappeler. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cette interview ?
À bientôt.
Voilà, c'est parfait, on finit là-dessus. Merci beaucoup, messieurs.